Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
C'est parti pour une quinzaine de jours. Le festival de Cannes, si par hasard ça vous avait échappé, commence aujourd'hui. Du moins la sélection officielle. Demain mercredi, ce sera le tour de la quinzaine des réalisateurs, la sélection historique fondée à la suite de mai 68 en dissidence, qui fête du coup ses 50 ans cette année. En tout, un peu plus de 200 000 personnes se retrouveront sur la Croisette durant 2 semaines, dans une ville qui compte environ 73 000 habitants en temps normal. Des retraités, aisés, venus chercher le soleil de la Côte d'Azur, mais aussi une population très caractéristique du département. Beaucoup de jeunes, avec un taux de chômage record chez ces 18-24 ans, autour de 30%, plus d'un jeune sur 5. Des quartiers un peu sensibles, mais pas non plus la Castellane. Des cités HLM, dont une qui s'appelle la Frayère et que tout le monde surnomme la Frayeur. Un peu de trafic de stupes, quelques scooters pétaradants. Ici, le quartier le plus populaire s'appelle la Boca. C'est à 10 minutes du palais des festivals, mais aucun jeune qui y vit ne monte jamais les marches. C'est à 10 minutes dans l'autre sens aussi, mais aucun festivalier ne va jamais à la Boca non plus. Ils préfèrent, et on les comprend, boire des cocktails cool sur des yachts que des chaînes de télé, privées ou publiques, des sociétés de production ou des groupes d'intérêt louent 500 000 euros les 15 jours. À la quinzaine des réalisateurs, heureusement, il y a des gens moins manichéens et moins binaires que moi, qui se sont dit qu'au lieu d'opposer dos à dos ces chiffres et ces personnes, ce serait plus malin d'essayer de les faire se rencontrer. Créée en 2010, la quinzaine à la Boca est donc un dispositif qui s'est mis en tête de faire venir les jeunes du quartier sur la Croisette, puis de faire venir les réalisateurs du festival à la Boca. Et de faire plein d'autres actions aussi dans tous les sens, des ateliers d'éducation à l'image, des ateliers scénarios, des projections et des débats autour des films sélectionnés par la quinzaine, pour les associations, les missions locales, les centres sociaux, les collèges, les lycées, des quartiers prioritaires de Cannes et même d'ailleurs. Tellement de trucs que finalement ça ne s'appelle plus la quinzaine à la Boca, mais la quinzaine en action. Il y a une fille qui s'occupe de tout ça et qui est une sorte de sainte laïque, Louise Hilla Sommers. C'est elle qui m'a fait rencontrer les jeunes que vous allez entendre aujourd'hui. J'ai fait un petit atelier avec eux, mais je leur ai aussi demandé pour les pieds sur terre de raconter une histoire, ou plutôt une embrouille de leur quartier. Ils font tous partie d'un dispositif qui s'appelle la Garantie Jeune, mis en place par la mission locale Cannes Pays de l'Hérens. Un accompagnement personnalisé pour trouver un emploi à destination des jeunes en grande précarité. Leurs histoires n'en parlent pas directement, mais c'est bien de le mentionner, et aussi que les embrouilles qu'ils racontent ont eu lieu avant leur arrivée dans ce dispositif, qui bien sûr a changé leur vie depuis. Ils ont presque tous retrouvé ou trouvé du boulot ou un stage. Embrouille à la Boca, c'est jusqu'à 14h, dans les pieds sur terre, sur France Culture, le Festival de Cannes, le nôtre, c'est tout de suite.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, c'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Sonia, j'ai 18 ans, je vis à Cannes, ça fait maintenant 5 mois. J'habite dans la résidence Pierre et Vacances. Cannes Beach, face à la mer. Donc voilà, après...
Bon, en fait, c'est sympa.
Oui, c'est sympa, mais je dis pas le contraire, mais je préfère aller rester à Paris, à Aulnay-sous-Bois. Ah, je peux pas rester ici. En septembre, je me suis retrouvée ici, perdue à Cannes. Et franchement, ça a été très dur, le déménagement, quitter ses repères, la cité, parce que j'habitais dans une banlieue, à Paris, à Aulnay-sous-Bois. Qui est une cité qui s'appelle les Emmaüs. J'ai grandi toute mon enfance. C'est une cité, il y a un peu de tout. C'est un petit peu aussi une cité violente, mais je connais vraiment tout le monde dans la cité. Pourtant, c'est une cité grande, hein, mais je connais vraiment tout le monde. J'avais ma famille tout juste à côté de moi et tout. Ma sœur, elle venait de se marier. Ça faisait un an. Je m'entendais super bien avec mon beau-frère. C'était comme mon frère. On marchait ensemble et tout. Ça a été dur de les quitter. C'est dur à se détacher d'une cité. Déjà par rapport à mes frères et tous mes autres, il n'y avait pas une personne qui me touchait. Ah non, il n'y a pas une personne qui me touchait. En fait, on est soudain entre nous. Il y a une embrouille, il y a toute la famille. Ça marche comme ça. La plus grosse embrouille que j'ai eue là-bas, c'était avec une fille qui s'appelle Nami. J'étais dans le même lycée qu'elle, elle était dans ma classe à Paris. Elle m'a présenté un mec. En fait, j'étais devant notre lycée. Elle me l'a présenté. Donc après, sur les réseaux sociaux, je lui ai donné mon Instagram sur les réseaux sociaux. Et après, on a commencé à parler. Et après, elle a eu mon numéro, on s'est vus, on s'est revus, on s'est vus, on s'est revus. Et après, on a officialisé. Je me suis mis en couple avec lui.
Et ça a duré combien de temps ?
Un an. Après, moi, je préférais rester dans la discrétion par rapport à mes frères. Mais après, moi, j'étais partie en vacances une semaine. J'étais ici, dans le sud de la France. Et elle est partie dire que, comme quoi, en gros, je suis venue en vacances avec lui. Je passe ma vie avec lui. On dormait dans la même chambre. Alors que c'est pas du tout le cas. Je suis pas partie en vacances avec lui. Je suis partie en vacances avec mon frère et ma mère. Elle racontait des sottises sur moi, en gros.
Enfin, qu'est-ce que ça peut faire qu'on dise que t'es partie en vacances avec lui si t'es pas partie en vacances avec lui?
Parce que ça donne une mauvaise image de moi, en gros. L'image, j'habite dans une cité, j'ai des grands frères, j'ai une famille. Et c'était un mec de cité, donc ça va, le message, il va vite. Il passe vite, le message. Je dors dans la même chambre que lui, je vis en vacances avec lui, donc ça sous-entend que je suis une pute. Ah oui, coucher, c'est être une pute. Hein. On est d'accord, coucher, c'est être une pute.
En fait, ici, chez nous, dans notre quartier, c'est comme ça. En fait, tout le monde se connaît. Et si quelqu'un entend qu'on a fait quelque chose, c'est voilà, on va se faire niquer. Et voilà, c'est tout. On va se faire tuer par les grands, les oncles, tout ça. Tout le monde va savoir. Chez nous, dans la culture à nous, en tout cas, dans la culture à nous, ça se fait pas.
En fait, elle veut faire passer la réputation d'une pute envers moi. Mais ça marche pas avec moi. Puis après, je suis partie là-bas en rentrant de vacances. Je l'ai appelée, je lui ai dit viens, une amie, viens. Elle a commencé à marcher vite. Donc je suis partie derrière, je l'ai pris par derrière. Et je lui ai dit c'est quoi ton problème et tout. Et c'est de là, elle a commencé à bégayer. Elle m'a dit non, j'ai rien dit, pas du tout. Ça a été inventé, j'ai rien fait. Donc je ramène les gens qui m'ont dit ça. Ils ont dit devant elle que si, elle a dit ça et tout. Je lui ai dit, moi, elle avait peur de moi. Je lui ai dit écoute, moi je vais pas te taper parce que t'es une meuf plus faible que moi. Mais la prochaine fois que tu reparles sur moi, là je vais taper, faible ou pas faible. Elle m'a dit ok, pas de souci.
Comment ça se fait qu'elle a peur de toi?
Madame, vous avez vu mon gabarit. Mon gabarit par rapport à son gabarit, c'est rien à côté.
Parce que tu fais beaucoup de sport?
J'en faisais beaucoup de sport et après, franchement, je vous mens pas. À une époque fou de ma vie, j'étais très bagarreuse. Je me bagarrais à chaque coin de rue. C'était pas possible.
Ah bon ?
Les gens me sortaient par les yeux. L'humain me sortait par les yeux. Avec certaines personnes, la bagarre, la manière forte, marche toujours.
Mais on t'a jamais dit la violence, c'est mal ?
Non, on m'a toujours dit la violence résout tout. Ah oui, oui, oui. Moi, je vous dis, madame, la violence résout toujours tout. À trop être gentil avec les gens, faut jamais être gentil avec les gens, madame. Moi, je vous préviens, en tout cas.
Les gens sont mauvais.
Ouais, les gens sont mauvais aussi. Parce qu'ils parlent très mal avec leur bouche. Une fois que tu me parles mal avec ta bouche, je t'enchaîne, quoi.
Par exemple ?
Exemple, je suis avec ma sœur. Moi et ma sœur, à une période, on s'habillait pareil. Une fille, elle vient, elle s'habille pareil chez nous. Je vais la voir, je lui dis, mais je comprends pas. Moi et ma sœur, on s'habille pareil parce qu'on est des sœurs. Pourquoi toi, tu vas t'habiller pareil que moi ? Mais t'es une malade, je m'habille comme je veux, nanani. Donc automatiquement, moi, tu me parles pas comme ça. Je l'ai pris, je lui ai mis des patates, déchassées.
Un chassé, qu'est-ce que c'est un chassé ?
Écrasement de tête, avec le pied. Ça fait vraiment mal, hein. Je vous mens pas. Ah, ça fait mal. T'entends, le nez qui tourne.
Ah, tu fais vraiment ça ?
Ah, mais quoi, je blague ? La tête de ma mère, je fais vraiment ça. Je vous promets, je fais vraiment ça. Ah non, moi, je bagarre. Faut pas me chercher des fois. Après, elle est partie voir sa mère est partie voir ma mère. Après, je vous mens pas, ma mère m'a tapé. Après, ma mère m'a remis les coups. Moi, j'étais fière de moi que je l'ai tapé, tout simplement. Et après, elle s'est plus rhabillée comme nous. Elle a osé s'habiller comme nous, je comprenais pas. Elle nous copiait, vraiment. Elle faisait tous les marchés pour trouver ce qu'on trouvait. Tout ce qu'on mettait, elle le mettait, c'était obligé. J'allais mettre une barrette rose, elle était obligée de mettre la barrette rose. Imaginez-vous. C'est comme si votre gilet noir, moi demain, je vais avec le gilet noir aussi, comme vous. C'est incroyable.
C'est pas très grave non plus.
Si, c'est grave. C'est comme si...
Ça s'appelle pas de personnalité.
Voilà. Comme elle a dit, il n'y a pas de personnalité. Ah non, faut pas s'habiller comme moi.
Mais moi, si je avais envie de m'habiller comme toi, c'est juste parce que je trouve que c'est vachement bien. Pardon ?
Je vous aurais tapé. Je vous vous aurez tapé aussi, c'est la même chose, c'est le même prix. Vous avez les mêmes vêtements que moi, pas de soucis, mais mettez-les pas le même jour que moi. Je serai en bas de ma tour, elle habitait dans la même tour que moi. Elle me voyait par sa fenêtre. Je suis dehors, elle me voit avec ses vêtements, par sa fenêtre, elle va mettre les mêmes vêtements que moi. Et elle ose venir en plus. Mais non, madame, arrêtez, c'est pas comme ça. C'est vraiment insolent, je trouve.
Bon, j'ai intérêt à faire gaffe alors demain quand je reviens.
Voilà, faut pas mettre la même veste que moi. Après, ma cousine, à l'heure d'aujourd'hui, elle s'est fiancée avec un garçon. Après, une amie, elle est partie dire n'importe quoi sur ma cousine, comme quoi, en gros, elle faisait des cochonneries avec le mec. Parce qu'en fait, elle est amoureuse du garçon. Lui, il voulait pas d'elle, parce que pour elle, c'était une gamine. Après, je suis repartie au mois de novembre à Paris. Je l'ai cherchée pendant un mois, elle se cachait. Elle m'a supprimé tous les réseaux sociaux, elle a changé son numéro, elle a bloqué mon numéro, elle a tout fait. Mais elle m'a pas laissé le choix, en fait. Je suis partie devant à mon ancien lycée. Et en fait, elle a fait quoi? Elle a ramené en fait, des anciennes copines à moi. Elle leur a dit, allez parler avec Sonia, comme ça, elle me voit pas. Mais en fait, moi, il y avait ma cousine derrière qui regardait. Je lui dis, regarde. Après, moi, je discutais avec mes anciens camarades de classe. Et elle, en fait, elle était capuchée avec une écharpe. Et elle a voulu se faufiler entre les personnes. Et là, il y a ma cousine derrière qui me dit, Sonia, elle est en face de toi. Une dame, elle est en face de toi. Et je l'ai sortie de la foule. Au début, elle était avec deux copines à elle. Je me suis embrouillée avec ses copines aussi parce qu'elle voulait pas partir. Je leur ai dit, excusez-moi des termes, hein. Je leur ai dit, allez niquer vos mères, barrez-vous de là, vous n'êtes pas sa mère, allez vous faire enculer, pourquoi vous êtes ici? Elles ont commencé à dire à Inam, ouais, dis à ta copine, elle parle autrement. Je leur ai dit, arrêtez de passer par Inam, si vous avez un problème, je vais vous niquer vos mères, parlez à moi directement. Et après, elles sont parties, elles n'ont pas répliqué, elles sont parties. Inam, elle est venue, on est parti sur le côté, en fait, je me suis mise dans un côté avec elle, avec ma cousine. Je lui ai dit ce que j'avais à dire. En gros, je suis venue la voir une fois, je lui ai dit, arrête de parler sur moi, c'est mieux pour toi. Elle m'a dit, ok, pas de souci. Elle va chercher la merde, mais encore avec ma cousine. Et là, en fait, au moment où je parlais, je lui ai mis une patate. Et à ce moment-là, elle a appelé toutes ses copines, Leïla et tout, nanani, venez. En fait, là, ses copines, elles sont arrivées au même moment, ils ont tous voulu me sauter dessus. Et quand eux, ils m'ont sauté dessus, et ma cousine, elle s'est mise au milieu, elle, en fait, elle a tout gagné à la vie parce qu'elle a couru dans une voiture. Et au même moment, la police, elle venait. Et il restait que tout le monde avec une grosse foule. Après, il y a les surveillants qui sont venus et tout. La police, ils ont demandé qu'est-ce qui se passait. Tout le monde a dit, c'est rien passé, nanani. Et après, moi, je me suis un peu éclipsée de la foule. Et la fille est partie faire quoi là? Je crois qu'elle n'a pas encore compris la leçon. Elle est encore partie envoyer des messages à ma cousine. Elle lui a envoyé de la vulgarité comme quoi, en gros, ouais, t'as pas honte, tu suces ton mec, tu cannes avec ton mec, nanani. Donc là, quand je vais repartir à Paris, là, l'histoire n'est toujours pas finie. Je vais repartir la voir. Et là, je pense ça va être un peu vulgaire ce que je vais lui faire. Cette fois-ci, elle va pas se sauver. Je vais la tenir avec une laisse. Je vais prendre comme un chien, tenir avec une laisse. Je sais pas, je vais l'attacher. Mais c'est pas fini.
Et le copain en question, qui n'était pas parti en vacances, donc, qu'est-ce qu'il est devenu?
Je sais pas, c'est un enculé. Hein. Les hommes d'aujourd'hui, c'est des enculés. En plus, à la base des bases, c'était pas une personne qui me plaisait physiquement. Et je vous mens pas, je parlais avec un autre mec qui, pour moi, physiquement, m'attirait. Mais des fois, on n'est pas obligé de prendre que le physique. Il y a le cœur qui va avec. Et j'ai préféré prendre le cœur. Alors d'aujourd'hui, je le regrette. Parce qu'il a fait une opération, il a perdu du poids.
C'est-à-dire qu'il était un peu costaud aussi?
Il était, il faisait 170, je pense. Alors d'aujourd'hui, il a 70-80 kilos.
À quel âge?
22-23.
Ah oui, donc il était plus âgé que toi?
Oui, je prends jamais mon âge. Mais comme je l'ai dit, alors d'aujourd'hui, je regrette, parce qu'il a perdu du poids, il a tourné sa veste. Parce que, franchement, je vous mens pas, au début, il ne me l'a pas dit, qu'il allait se faire opérer. Moi, il m'a dit, je rentre juste à l'hôpital pour un petit problème. Et c'est quand, en fait, parce que j'ai mes deux oncles de ma famille, ils l'ont fait aussi, l'opération. Et quand il m'a dit l'hôpital où il était et dans quel service il était, c'est là où j'ai compris qu'il faisait l'opération. Et après, il me l'a avoué. Il a perdu 100 kilos en 6 mois.
Ça changeait beaucoup ou...
Ah, ça change énormément. Ah, c'est plus du tout la même tête. Et il m'a trompée, il est parti voir une autre meuf. Et à l'heure d'aujourd'hui... Je l'ai revu quand je suis partie à Paris, mais ça s'est mal passé. Après, comme je lui ai dit, il y a un bon Dieu, et puis voilà. Après, moi, à l'heure d'aujourd'hui, je continue à faire ma vie. Lui, il parle à 46 000 meufs, il fait ce qu'il veut. À la fin, c'est lui qui le regrettera, c'est pas moi.
Un jour, moi et mon frère, on s'est retrouvés à Saint-Jean-d'Angély, à Nice-Riquier. On se retrouvait chez un pote à lui. On était posés, on fumait du stupéfiant et tout. Ben, c'était une journée entre nous et tout. En bas, il y avait un garage auto bleu. C'est une concession genre faite par le maire de Nice. Pour les gens, les touristes et tout, dans Nice et tout. C'est une voiture, genre, il faut un abonnement. Et pour la prendre, il faut une carte obligatoire avec l'abonnement dessus. Et moi et mon frère, et ben, on était en haut, juste à l'étage d'en haut. Genre, c'est un bâtiment et ce bâtiment-là, il contient le garage. Et on était assis et tout, on fumait tranquille et tout. Et à un moment, mon frère, il lui est venu une idée. C'est genre, il m'a demandé de prendre la voiture auto bleue dans le garage. Moi, j'ai réfléchi, je ne l'ai pas dit oui de suite. Parce que c'était un peu fou, cette idée. Moi, j'étais pas chaud au début. Et j'ai pensé et tout, j'ai réfléchi, j'ai continué à fumer et tout. Et de là, j'ai repensé, j'ai commencé à regarder tout dehors pour voir s'il y avait des gens. Et il n'y avait personne. Je suis descendu en bas, je suis parti voir. J'ai regardé dans le garage, il n'y avait personne. J'ai regardé, il y avait 4 voitures. Et j'ai regardé les 4 voitures, il y en avait une, elle avait la carrosserie un peu pétée. L'autre, elle avait une vitre. Enfin, ils étaient tous en réparation, sauf une. Et celle-là, elle avait les doubles de clés d'une voiture, plus des outils dedans, plus voilà, avec la clé dans le contact. Et la fenêtre, elle était ouverte. Donc moi, je suis cash monté dedans, j'ai démarré la voiture. Elle fait pas de bruit vu que c'est l'électricité. Tu la démarres, tu peux sortir tranquille du garage. Et cash, moi, je suis allé directement poser la voiture dans un parking à Vauban, juste à côté de Saint-Jean-d'Angély, à côté. Et je l'ai posée. J'ai posé la voiture, je suis reparti voir mon frère et il ne me croyait pas. Il ne croyait pas que j'avais pris la voiture. Je lui ai dit, je te jure, j'ai pris la voiture et tout. Il est descendu avec moi et tout. On est parti revoir dans le parking et il y avait la voiture. Il était content. Après, on a pris la voiture, on a fait un tour dans Nice. On est revenu. Après, moi, j'ai laissé mon frère, j'ai pris la voiture. Et à ce moment-là, j'ai pris l'autoroute pour aller à Carrosse. Et quand j'ai fini à Carrosse, eh bien, il y avait le péage, j'avais pas de sous. J'avais pas de sous, j'avais rien, et en plus, il y avait la gendarmerie au péage. Donc, j'ai fait quoi? Je suis arrivé au péage, j'ai appuyé sur la sonnerie d'alarme. Et la dame, elle est venue me voir, elle m'a dit, vous avez mis les sous dans le truc pour voir si ça marche? J'ai dit oui, mais la barrière, elle fonctionne pas. Et elle m'a dit, ben, appuyez sur le bouton et ça prendra votre plaque. Je lui ai dit, c'est pas grave, c'est pas ma voiture. Je suis parti. Et premier rond-point, accident. Accident, m'a rentré dedans par l'arrière, j'ai dû faire un constat, mais vu que j'ai donné faux nom, faux prénom, et le mec il m'a jamais retrouvé. Et j'ai posé la voiture au moulin, et au moulin j'ai pris le bus et je suis allé rejoindre mes collègues à Libération, ils m'attendaient, voilà. J'avais pas le permis.
Mais comment tu savais conduire?
Ben, déjà juste avant ça, il y avait des collègues à moi, ils me prêtaient leur voiture au quartier, donc après c'est facile, hein.
Donc moi j'avais 14 ans quand je commençais, j'étais encore au collège, je travaillais pour quelqu'un, c'est tout ce qui était stupéfiant et tout. Donc j'ai commencé à récupérer chez les grands, récupérer tout ce qui est sous, stupéfiant et tout, on a commencé à revendre dans le quartier et tout. Donc au début je voulais pas le faire, parce que dès qu'on voit la police on est sous pression, et après au bout d'un moment, premier client, deuxième client qui arrive, et après ça part tout seul en fait, avec les réseaux maintenant, ça part tout seul. Par exemple, Snap et Instagram et tout, on s'envoie des messages parce que si on fait au téléphone, on peut être sur écoute. Et sur les réseaux sociaux, il n'y a aucune trace. Enfin, Snapchat et tout, Instagram, il n'y aura pas de trace. Parce que ça s'enlève au bout de 24 heures.
Donc, Instagram, ça ne s'enlève pas?
Si on parle en photo sur Instagram, ouais, ça s'enlève au bout de 24 heures. Ben, par exemple, si on a reçu du détail, en fait, c'est la plaquette de shit qui a été coupée. On le reçoit directement dans les pochons. On photographie que les pochons posés sur la table comme ça. Faire une belle petite photo et on marque le numéro de téléphone. Ceux qui veulent, ils nous appellent, quoi. Des petits consommateurs là qui prennent des 10 euros, des 20 euros. Mais c'est jamais notre numéro personnel. C'est toujours un numéro d'une carte prépayée qu'on prend dans un tabac avec un petit téléphone. Donc tous les mois, je devais déchirer le téléphone, le casser en deux, casser la puce et en racheter un avec les sous. Voilà. Ça coûte quoi? Ça coûte 20, 30 balles. Donc voilà. C'est à partir de 15 ans et demi, 16 ans, que mon père il a commencé à avoir des doutes. Et mon père, ça va, il est un peu connu au Canet. Donc il y a des pères de famille qui m'ont vu et qui ont dit à mon père, et voilà, c'est parti en live. La confiance, elle a été dégradée, quoi.
Et ça t'a fait de la peine ?
Bien sûr, ouais. Donc après, j'ai arrêté. Et donc, je m'étais embrouillé avec mes parents. Et comme, en fait, j'avais fait les sous en tant que petit charbonneur, j'ai réussi à me prendre un petit appart au Canet. Donc, mes parents, ils étaient d'accord. Donc, eux, ils pensaient que j'étais à fond dans les études, alors que pas du tout. Je m'en foutais des études. Et ouais, je leur ai menti. C'est pas bien, ça. Je regrette jusqu'à maintenant. Et j'ai commencé à faire des sous à droite à gauche, voler à droite à gauche. Tout ce qui passait, des scooters... Même des trucs bidons, hein, des téléphones. J'allais à la Fnac, je volais des chargeurs. Et il coûte 30 euros le chargeur, je le revends 20 euros, ça me fait des sous. Des écouteurs, un peu de tout, non ? Après, j'ai jamais volé une personne en face de moi. Par exemple, je vais pas arracher le sac d'une vieille. Ça, je respecte, ça. C'est pas... Je veux que dans les magasins, ça, je respecte pas les magasins. Et après, au bout d'un moment, en été, j'étais obligé de me refaire les sous, donc c'est reparti dedans. Et après, les jours passent, les années passent et tout. Donc moi, j'avais des petits qui travaillaient pour moi. Il y a plein de petits guetteurs et les petits charbonneurs. Les petits guetteurs, c'est ceux qui te préviennent quand la police elle arrive. Et les petits charbonneurs, c'est ceux qui vont vendre dehors, quoi. Ils se posent dans un coin ou ils marchent dans la rue ou quoi, et voilà. Donc la nourrice, en fait, ça s'occupe de garder les sous à la maison ou dans un endroit et garder toutes les grosses quantités de stupéfiants. Et donc
toi, c'était ça ton travail?
Ouais, moi, je devais garder tout ça. Et moi, je travaillais pour quelqu'un. Donc, j'habitais tout seul dans mon appart. C'était un petit studio. Et donc, un jour, il y a des petits qui sont venus pour récupérer chez moi. Donc, eux, ils me posent les sous et moi, je leur donne les stupes. C'était que des grosses paquettes de shit. Et en leur donnant, en fait, ce jour-là, il n'y avait aucun guetteur. Donc, la police, elle est arrivée. Donc, moi, j'ai réussi à un peu me cacher tout ce que j'avais. Et donc, ils ont pris que les charbonneurs. Moi, ils ne m'ont pas chopé. Et je crois que c'était un mois après, à 6h du mat, ils m'ont levé, ils me notent et tout. Je me suis retrouvé au poste, garde à vue pendant 24 heures. Donc après, moi, ils ont vu que je m'exprimais bien, ils ont vu que j'étais tranquille. Donc ils m'ont pris au bout de 4 heures de garde à vue, ouais, un truc comme ça. Jusqu'à, je suis parti à Grasse et voilà. Mais après, ils étaient gentils avec moi dans le camion pour aller à Grasse. Parce qu'il y avait 2-3 collègues à moi aussi qui se sont fait péter. Comme on est presque tous Cannes, le Canet, Ranguin et tout, on se connaît tous de vue. Et donc, on se voyait dans le bus, on était attachés avec les menottes au siège. Mais après, voilà, on s'est retrouvés là-bas. Tu rentres dans la prison, c'est gris. Tu te fais insulter de tous les noms. Et au bout de deuxième jour, quand le surveillant il vient, il te passe ton manger. Et voilà, j'en ai encore des frissons. À la base, je devais prendre 6 mois. Et comme j'ai un collègue à moi, il est flic, j'ai réussi à prendre que 1 mois. Donc j'ai fait 1 mois et je suis sorti avec le bracelet électronique pendant 1 mois encore, au pied gauche.
Et qui est réglé selon des horaires,
ouais,
c'est
ouais,
ça?
C'est réglé, ouais, ouais. Moi, c'était de 7h du matin jusqu'à 4h30.
Tu pouvais être dehors?
Ouais, dehors. À 4h30, si j'étais pas chez moi, ça sonnait de partout et tout. Et donc un jour, en fait, tu dépasses les horaires. Ça m'est arrivé une fois. Tu vois, cache les flics qui arrivent avec les gyrophares, ils te prennent, ils te demandent ce que tu fais. Donc, ils te mettent quand même en garde à vue pour savoir ce que tu fais. Ils te fouillent, ils te font plein de paperasses, tu dois signer je sais pas combien. Tu restes 2-3 heures en garde à vue pour rien, juste parce que tu as loupé le bus. Moi, ça m'arrivait, c'était ça, j'ai loupé mon bus pour rentrer chez moi. Donc, je vous assure, hein, 7 heures, j'étais debout. 7 heures, je bougeais dans l'appart et tout, tac. Dès que je vois le bus, il arrive, bam, je cours. Je monte dans le bus et je commence à tourner dans la ville. Je fume des clopes. J'avais pas assez de sous, donc je faisais quand même des conneries. Avec le bracelet, ouais, ouais. Je faisais quand même des conneries, mais c'était pas un truc de fou. Donc j'ai volé à la Fnac, Carrefour, Leclerc de Rocheville. Là, j'avais pas de sous pour manger, je voulais manger. Je mettais des grosses doudounes en été. Je mettais tout dans les poches des doudounes, parce que vous voyez les doudounes de maintenant, des poches de partout. Donc je mettais une canette à droite, une petite canette à gauche, des petits sandwichs à l'intérieur. Pour que ça reste froid. quand on n'a rien à manger, hein, c'est comme si on était SDF. Et quand on se dit dans la tête, quand on voit les SDF dans la ville, dans Cannes et tout. Et parce qu'on voit Cannes à la télé, ouais, Cannes à la télé, c'est beau, le soleil, les nanas, festival de Cannes et tout, ah, les sous. Mais vous voyez pas le fond. Hein. C'est pas pareil. C'est pas ce que vous voyez à la télé, quoi. Et donc, d'un coup, quand on voit un SDF dehors, assis, abrité, sous un arrêt de bus et tout, on se dit, non, j'ai pas envie de finir comme ça. Donc ça met un coup au moral, mais il faut être fort, quoi. Donc après, au bout d'un mois, ils me l'ont enlevé. Je suis retourné chez mes parents grâce à mon grand frère. Il m'avait appelé, il m'a dit ouais, retourne à la maison, je parle avec ton père et tout. Et donc je suis retourné à la maison, ambiance tendue, on dirait que je suis rentré en prison encore une fois. Ça parlait pas beaucoup à la maison, j'étais pas à table avec eux. Mais voilà, maintenant c'est la vie et j'ai changé de vie. Maintenant, tout va bien, j'essaye de réussir, sans faire de conneries. J'ai arrêté tout ça, là, tous les stupéfiants, j'ai arrêté.
Donc, voilà. Et avec tes parents, ça va mieux ?
Ouais, ça va beaucoup mieux qu'avant, quoi. Maintenant, ça va. On rigole, on est tranquille. Là, on va aller en vacances en juillet, août. Et voilà, tout va bien. Troy Green.
Aujourd'hui encore, c'était Des Pieds sur Terre avec Embrouille à la Boca, un reportage de Sonia Kronlund réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Sonia et à tous les jeunes de la Garantie Jeune de la mission locale du pays de l'Hérens, dont j'ai gardé l'anonymat. Merci à Fatia Miloudi, à Sandrine Scagliari et à Soraya Alvarez et aux autres personnes qui travaillent à la Garantie Jeune. Merci surtout à Louise Hila Sommers de la Quinzaine en Action, à Jimmy Hirayama et à Edouard Wentrop, à Lubomir Bakchev, à Mathieu Perrault et à Georges Krag. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Céline Autin, bien sûr, c'est notre stagiaire.